J'aime les films de filles.
What the fuck is this?
My definition of a bombastic jazz style.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 166. Mon nom est Paul Andriot et cette semaine, en fait, mes collègues habituels Rémi Fréchette et Pascal Plante ne sont pas disponibles pour une simple bonne raison que Pascal Plante est en voyage et Rémi Fréchette est en tournage, donc on est tous très occupés, mais je ne ferai pas un monologue d'une heure, je suis accompagné d'une personne géniale, Justine Smith, bonjour.
Bonjour, merci pour m'avoir.
C'est tout un honneur, en fait, quand tu te joins à nous. C'est pas la première fois qu'on t'a au podcast. Pour ceux qui te connaissent pas, t'es une critique de film, t'as un compte Twitter très actif. On peut te trouver, en fait, en te tapant Justine Smith si on recherche sur Twitter. Sinon, c'est at Red Room Rentings. T'as également aussi un compte Letterboxd at Philosophe Rouge. Philosophe Rouge. Sur lequel tu as notamment indiqué tous les films que tu as vus au FNC par ordre de préférence, grosso modo. Et souvent, tu vas publier ça, des petits mots sur les films. Tu écris pour toutes sortes de sites web et de magazines. Et tu viens notamment d'écrire un article pour le site Little White Lies, donc un site anglais. Et ton article s'intitule « Was this the sexiest film festival ever? » Donc, en parlant du FNC. On pourrait peut-être parler un peu de cet article-là, en fait. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'était vraiment le contenu des films? C'était un peu le zeitgeist en ce moment, ou est-ce que c'est le contexte d'un festival à Montréal qui n'a peut-être pas les mêmes problèmes, entre guillemets, qui secouent l'industrie, comme on peut le voir aux États-Unis en ce moment?
Je dirais que c'est une combinaison de tous ces éléments. En partie, c'est pour moi un festival qui est vraiment... Depuis que j'ai commencé d'aller, s'il y a beaucoup de films sur le sexe et même la pornographie un peu extrême, c'est pas un festival qui veut... Et qui essaie d'être prudish, ça ne marche
d'être
pas.
Prude.
D'être
ouais.
Prude, oui.
Et notamment avec la section de temps zéro, qui est souvent des films
oui.
Un peu qui sont, c'est ça.
Comme, littéralement, ouais. De la pornographie, mm-hmm. comme légalement aussi, on peut dire, des autres choses.
Ouais.
Mais cette année, pour moi, c'était pas nécessairement l'année la plus sexy du festival, mais les parties, les musiques à Agora, c'est vraiment fantastique. Moi, mm-hmm. Je suis allée voir le performance brésilien et c'était vraiment... C'est comme si c'est sexy, c'est la musique, c'est l'atmosphère. Ouais. Cette année à Montréal, c'était tellement chaud aussi, alors c'était comme un peu bizarre.
Ouais.
C'est comme l'été, c'est comme un festival au milieu de juillet, mais tout le monde est dans des gilets et tout ça et c'est bizarre.
Ouais.
Mais...
Il y avait aussi, est-ce que tu es allée à la soirée de Travelling qui fêtait ses 10 ans? Donc une maison de distribution de courts-métrages au Québec. C'était un bal masqué, en fait, donc tout le monde portait des masques. Donc, au niveau sexy, ça fait un peu, c'est ça, Eyes Wide Shut ou quelque chose comme ça?
Non, j'ai pas eu l'opportunité d'aller, mais je crois qu'il fait une forme de cet événement à chaque année. C'est vraiment, c'est une très bonne idée. Et je sais aussi, qu'est-ce que tu as mentionné aux États-Unis, Harvey Weinstein et tout ça. Je crois que Montréal n'est pas... Ça arrive, là. Ça ouais. arrive dans tous les aspects du festival, pas du festival, mais de la vie, de l'industrie. Oui. L'industrie a beaucoup de problèmes. C'est mm-hmm. pas, on peut voir c'était qui aujourd'hui, c'est les grandes nouvelles.
Éric Salvay, ouais, qui est
oui.
accusé. Mm-hmm.
C'était bon, tu lis les accusations, c'est pas comme le Québec et.
Non, on n'est pas, non, effectivement, mais peut-être que l'ampleur du problème est moins là. Notamment aussi, c'est une réflexion qu'on avait déjà eue au podcast, c'était que il y a moins le côté un peu on a très peu d'actrices en fait qui sont uniquement choisies pour leur physique au Québec.
Mm-hmm.
On n'a pas vraiment cette culture là d'avoir des tapis rouges avec des femmes super sexy ou c'est beaucoup moins, tu sais, les grandes vedettes et les grandes actrices québécoises, c'est parce qu'elles sont soit très talentueuses ou qui jouent dans des trucs très populaires. Où on a moins ce côté-là, justement, d'objectifier nos actrices, j'ai l'impression.
C'est difficile à dire totalement, mais je suis d'accord. Mais c'est plutôt, je crois au Québec, il y a quelque chose avec les Québécoises et les Québécois qui quand on regarde la télé et quand on regarde les films, on veut vraiment voir une réflexion de nos expériences. Mm-hmm. Alors, quand tu penses comme aux plus grands acteurs ou actrices, oui, ils sont pas comme Brad Pitt, là. Mm-hmm. Le plus beau, c'est Roy Dupuis. Et bien là, ouais. Même Roy Dupuis, maintenant, c'est quoi? Il a 60 ans? Je sais.
Ouais, il est âgé, ouais.
Mais ouais. Il est quand même beau, mais mm-hmm. Tu peux voir... Il est, même lui, il a comme un petit... Comme il est un peu étrange. Il a une beauté un peu extrême. Il y a bien sûr des belles femmes et tout ça aussi, mm-hmm. mais c'est pas... la même façon d'aspirer aux perfections. Mm-hmm. Je dirais, c'est beau dans... C'est pas laid, mais c'est beau dans le normal.
Oui. Avant qu'on commence, en fait, parce qu'on est là pour faire le bilan du FNC, justement, pour faire suite à notre dernier épisode, où on avait abordé déjà quelques films. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, je vous invite à aller l'écouter. L'épisode 165, où on discute notamment de Blade Runner, de Laisser bronzer les cadavres, de Ta peau si les élus de Denis Côté et plusieurs autres. Donc c'est ça, avant qu'on fasse le bilan, j'aimerais ça féliciter notre collègue Pascal Plante, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, qui a remporté quand même le prix Focus du meilleur film québécois-canadien du FNC pour son film donc Les faux tatouages, son premier long métrage de fiction, qui prendra l'affiche début 2018 dans les salles québécoises. Je suis très content pour lui. Je ne ferai pas la critique du film parce que c'est un peu comme un gros conflit d'intérêts, puis je le connais depuis très longtemps. Et aujourd'hui même, on apprenait en fait que le festival Images en vue, qui a lieu aux Îles-de-la-Madeleine, en fera son invité d'honneur. Donc, festival de courts-métrages où il présentera donc quelques-uns de ses courts-métrages et les faux tatouages et donnera une classe de maître. Alors, les bonnes nouvelles s'accumulent pour Pascal et c'est super bien, on est très contents. Maintenant, le FNC. Donc, comme je disais, on ne parlera pas des films qu'on a déjà vus. Mais peut-être à tour de rôle, on va un peu y aller avec les différents films qu'on a vus, ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a peut-être moins aimés, ceux sur lesquels on se pose des questions, tout le moins ceux qui nous font réagir. Donc, je vais lancer le bal, en fait.
Ouais.
Et tu me le diras, hein, s'il y a des films que je nomme comme ça dans les prochaines minutes que tu as vus, que tu veux embarquer avec moi sur une critique. Mais ce que j'aime, en fait, du FNC, quand on a la chance d'avoir une passe, ou qu'on est très aventureux et qu'on prend les biens un peu à l'aveugle. Et c'est vraiment ça que j'ai fait cette année, en fait. Je suis rentré dans plusieurs séances où je savais même pas exactement le titre, parfois. Je savais même pas si c'était un film de fiction, un documentaire, des trucs comme ça. J'ai vraiment été selon ce qui jouait au moment où j'étais disponible. Et j'ai eu des très bonnes surprises, des très mauvaises aussi. Mais notamment des trucs aussi... Parce que certains films, des fois, on dirait qu'on a vraiment besoin d'un background pour les comprendre. Comme par exemple Moda Focas de Guillaume Renard et Shujiro Nishimi, qui est un film d'animation donc franco-japonais, basé sur les BD de Guillaume Renard, et que clairement il y a comme un fanbase, il y a clairement comme un public qui aime cette série puis qui attendait le film avec impatience. La salle était remplie de fans, et puis moi j'étais là, puis j'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Donc oui, c'était bien, c'était drôle, c'était sympathique, c'est un peu... Ça joue un peu dans les clichés, mais en même temps... C'est quand même assez unique de par sa position de film au design français, mais vraiment, l'animation est faite par le studio 4C, en fait, au Japon, assez connu. Et donc, ça fait un mélange des cultures assez étrange, assez intéressant, mais le scénario est un peu sans queue ni tête, puis ça va un peu dans toutes les directions... On est en Californie, à Los Angeles, il y a des guerres de gangs, c'est comme les bleus contre les mauves, puis on est quand même dans les clichés assez... On va dans la caricature, mais en même temps, c'est de l'animation, puis c'est censé être drôle, le fun. C'est un film, je pense, s'adresse beaucoup plus aux adolescents que... Bon, c'est trop violent, puis c'est trop vulgaire pour des jeunes enfants. Puis en même temps, je pense que, rendu à un certain point, il y a quelque chose de très juvénile, puis de très... dans l'humour qui est très... exagéré un peu, puis à un moment donné, pendant le film, il y a un des personnages qui dit « Hey, on n'est pas dans GTA, dans Grand Theft Auto ici. » Puis il y avait un peu ce sentiment que c'est un peu comme ceux qui aiment jouer à Grand Theft Auto vont probablement aimer ce film-là d'animation. Mais vient un moment où peut-être que tu délaisses les jeux vidéo ou tu délaisses Grand Theft Auto puis que tu veux quelque chose avec un peu plus de substance ou... Parce que j'ai l'impression d'être super vieux quand je dis ça. Mais ouais, donc Moda Focas, c'est ce genre d'expérience en fait qui est le fun en festival de se faire confronter puis de rentrer dans des trucs où on n'a aucune idée ce que c'est. Un autre exemple de ça en fait, une expérience auquel j'avais pas trop de points de repère au début de la séance. C'est Ni juge ni soumise de Yves Inan et Jean Libon. Qui sont. En fait, Jean Libon, c'est un des co-créateurs de la série Striptease en Belgique. Puis j'en avais comme entendu parler un peu de nom. Je sais ce que c'est, Striptease, mais je ne l'ai jamais vraiment écouté. Pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est comme une série documentaire qui s'intéresse à toutes sortes de gens, souvent en fait des gens marginaux, des reclus, des délaissés, des gens pauvres, ou des gens simplement fascinants en fait. Et ça a été vraiment une série documentaire qui a roulé longtemps. Qui est devenu un peu culte et aussi qui soulève beaucoup en fait de dilemmes éthiques dans la pratique du documentaire. Et leur nouveau film, évidemment, c'est encore là-dessus. Ni juge ni soumise, on suit donc une juge française qui doit composer au quotidien avec toutes sortes de cas différents. Des voleurs, des violeurs, des familles de co-sanguins. Il y a une dame à un moment donné qui a un épisode de folie, en fait, puis qui a vraiment perdu contact avec la réalité et qui a tué son fils parce qu'apparemment le diable lui avait dit de le faire. Et puis, c'est comme le film, la manière que c'est tourné puis la manière que c'est monté, c'est vraiment censé être drôle et être comme divertissant parce que c'est un regard sans censure sur des trucs qu'on voit pas nécessairement d'habitude. La caméra qui est là, puis qu'on voit des rencontres justement informelles ou plutôt. Certaines sont plutôt violentes, sont plutôt confrontationnelles entre des gens qui veulent pas retourner en prison, qui veulent essayer d'avoir une chance, mais qui ils ont fait des crimes à répétition. Donc, il y a tout aussi un travail pédagogique. Et la juge elle-même, elle est super intéressante, elle est drôle, elle est cocasse, elle adore manger, elle a toujours des gâteaux. Mais c'est ça, le film rend mal à l'aise, et je pense quand même que c'est le but, parce que c'est avant tout une réflexion sur ce qu'on peut filmer, ce qu'on peut montrer, et aussi un peu peut-être regarder en pleine face des problèmes duquel on a tendance à les tasser, en fait, puis à les laisser de côté. Comme par exemple la pauvreté, l'intégration des immigrants aussi, parce que on se mentira pas, dans le film, 99% des cas, c'est des immigrants récents en France. Pas en France, en Belgique, plutôt. Et justement, ça soulève des questions, notamment aussi pour la pauvreté, puis parce que la juge, elle doit juger des crimes et des actes, peu importe la provenance ou la nature des gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plusieurs gens qui sont issus de certains pays ou de certaines couches sociales qui se retrouvent toujours devant un juge, justement? Donc, c'est un film qui confronte, et c'est pas toujours facile. Et moi, j'ai quand même eu de la misère à certains passages, notamment c'est la dame, tantôt que je disais, qui a perdu la carte, et qui était, tu sais, on la voit pendant vraiment longtemps, là. Tu sais, c'est eux, ils ont tourné à peu près, peut-être, ils disaient en Q&A, genre une heure avec chaque pour chaque personne, puis c'est pour le documentaire, c'est ramené à 2-3 minutes. Celle de la dame, qui a un épisode de folie, et c'est plus long quand même. Et c'est un ton plus lourd aussi par rapport peut-être au reste du film qui est plus léger. Mais c'est ça, je me disais, tu sais, comment peut-on s'approprier en tant que documentariste le droit de se dire « je filme telle personne » sans vraiment son consentement, parce qu'elle n'est pas dans l'état de consentir à donner son image, et montrer ça dans les festivals, dans un but en partie confrontationnel et éducationniste, mais aussi en partie de divertissement pour aller dans les festivals à travers le monde, tout ça. C'était pas dans un contexte universitaire qu'on écoutait ça. C'était vraiment comme, on vendait des billets, on allait s'amuser de ces gens. Mais eux, ils se défendent en disant, cette dame-là, on l'a rencontrée plus tard, alors qu'elle était consentante, on lui a montré les rushs et le film, et elle était très contente, elle nous a donné son accord, tout ça. Je veux bien. Mais c'est le même problème, en fait, qu'on donnait déjà à Jean Rouch. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu prends des gens pauvres, tu leur offres quelques sous, quelques dollars, et pour la permission de les filmer, puis de les montrer sur un grand écran, est-ce qu'ils saisissent vraiment, et est-ce qu'ils ont un autre choix que d'accepter? Donc, est-ce qu'on exploite, en fait, les gens en majorité pauvres ou qui ont des problèmes pour faire un film de divertissement? Donc, moi, j'avoue que j'ai mal à l'aise pendant certains moments du film, mais en même temps, je suis content d'avoir vu le film et je suis content au FNT de l'avoir présenté. Et il y a notamment tout un passage sur... il y a une longue scène, en fait, qui... c'est comme la juge qui essaie d'expliquer à une famille de co-sanguins qu'il faut pas justement avoir des enfants avec des gens de premier sang, de premier degré de relation. Et puis elle se met un peu à leur faire la leçon, c'est très paternisant tout ça. Et il y a quelqu'un qui a demandé, tu sais, dans la salle justement, mais vous avez pas l'impression que vous vous moquez d'eux? Et Jean Libon a répondu, oui, mais moi je le trouve comique quand même, c'est co-sanguin. Donc tu sais, j'ai un peu mal à l'aise à je peux pas dire que je cautionne la démarche à 100%, mais ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je veux dire, au niveau formel puis la maîtrise, si on évacue la question de la morale puis de l'éthique, c'est très bien fait, c'est très drôle, ça marche tout à fait, le montage, c'est super bien. Mais voilà, j'aurais peut-être... je pense qu'on a chacun nos limites, nos d'éthique. Puis en tant que spectateur aussi, c'est bien qu'ils ne soient pas nécessairement les mêmes que celles du cinéaste, parce que le film leur appartient plus à un certain point. Quand j'entre dans la salle, moi j'entre avec mon propre bagage de valeurs, et c'est à moi aussi de tracer la ligne où je veux. Donc, mais c'est ça. C'est une de mes expériences les plus marquantes du festival, en fait. Ouais. Mais sans que ce soit le meilleur film que j'ai vu, mais j'étais content d'être confronté.
C'est très intéressant parce qu'un film qui va jouer au rendez-vous du documentaire le mois prochain, Wang Bing's Mrs. Fang, mm-hmm. approche une question très similaire parce que c'est l'histoire des derniers jours d'une femme qui souffre d'Alzheimer's et elle ne peut plus parler et elle peut presque pas bouger. Et avant qu'elle est devenue malade, elle a donné... elle a dit à Wang Bing, tu peux faire un film sur moi.
Oui.
Mais tu regardes le film et tu sens vraiment que tu envahisses un moment qui est trop privé. Mm-hmm. Mais à la fois, elle a donné son... Elle a dit, oui, tu peux le faire. Mais comment est-ce qu'elle pourrait imaginer... Elle peut même pas fermer sa bouche dans le film et tout ça. Alors, c'est vraiment c'est quelque chose... Comme tu dis, ça te fait réfléchir. Et je ne pense pas que c'est un problème au fin de la journée que tu dis « j'ai un problème éthique ou moral avec ce qu'ils ont fait.
» Et je n'ai pas vu le film dont tu parles, évidemment, mais...
Oui, non, mais c'est intéressant que c'est la question du moment.
Il faut aussi se poser des questions justement, par rapport à l'Alzheimer, puis est-ce qu'on en fait assez, est-ce qu'on accompagne assez bien ces personnes-là, justement. Donc, c'est ça, est-ce que la fin justifie les moyens? Ben, parfois, possiblement, puis je pense que c'est du cas par cas aussi. Il y a également le film Cannibal qui va jouer au RDM.
Oui, moi j'ai vraiment hâte de le voir, mais c'est tellement controversé.
Ouais. Un peu pour les mêmes raisons, c'est ça, c'est le Sensory Ethnography Lab, ceux qui nous ont donné Léviathan notamment, qui reviennent avec ce film, qui filme donc, j'ai plus son nom en tête, là, mais c'est un célèbre cannibale japonais. Et déjà, juste de lui donner une tribune, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut en tant que société?
Mm-hmm.
Et c'est un documentaire, là, c'est pas une fiction, c'est vraiment comme un véritable criminel. Là. Donc, c'est toujours des réflexions qui sont très intéressantes à avoir. Là. Mais là où peut-être le film de Wang Bing, j'ai l'impression que peut-être que c'est plus sensible. Je l'ai pas vu. Hein.
J'ai pas vu ni juge, alors on peut pas vraiment faire une grande
discussion. Oui, non, c'est ça. Mais c'est le côté un peu. On se moque quand même d'eux. Mais en même temps, se moquer de quelqu'un, des fois, c'est peut-être faire la preuve qu'on a l'impression. Se moquer gentiment, taquiner, c'est quand même faire la preuve que cette personne appartient à notre groupe aussi, parce que. On fait pas des blagues, parce que ça revient à justement, si on interdit toutes les blagues, par exemple, sur l'homosexualité, par exemple, c'est de se dire, fait qu'on les accepte pas vraiment, si on n'est pas à l'aise de faire des blagues avec eux, sur eux, tout ça. Donc, il y a aussi de ça dans les juges insoumises, en fait.
Je crois que c'est vraiment la question du moment, peut-être, parce que tout le monde a des caméras maintenant, qu'il y a tellement de matériel que nous regardons à chaque jour qu'il y a des questions. Est-ce que la personne que je regarde est consciente de ce vidéo, même si c'est eux qui l'ont fait? Tu sais qu'est-ce que je veux dire?
On se rappelle, il y avait l'affaire Off the North au Québec.
Oui, l'année. Il y a 2 années maintenant?
Je pense que oui, oui. Donc, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, c'était donc un cinéaste québécois blanc, dois-je dire, qui avait fait, dans le fond, un montage de trucs qu'il avait trouvé sur YouTube et d'autres sites, filmés par des Autochtones, des gens des Premières Nations du Québec. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est encore une fois, c'est un peu le même problème éthique de savoir Est-ce que toi, même si eux, ils ont publié ça sur YouTube et que les vidéos sont disponibles, est-ce que ça te donne le droit d'en faire un montage et de choisir toi-même un peu ce que tu racontes de leur histoire?
Ouais, c'est une grande question, je crois, sans réponse facile. Mais c'est bon qu'il y a des opportunités à les confronter. Oui. Alors, ça, c'est les surprises du festival pour toi.
Je m'en garde un ou deux autres encore, mais moi, ça, c'était de donner le relais, puis s'il y avait peut-être des films aussi.
Parce que, comme toi, moi, j'essaie de trouver avec FNC, c'est très facile de choisir un film ou choisir comme, OK, à 16h, je suis disponible, alors c'est quoi qui joue et tu choisis quelque chose vraiment flou. Je vais dire que cette année, ça, la plupart du temps, quand j'ai fait ça, c'était vraiment soit un désastre, que j'ai détesté le film. Je crois que tu étais là avec un Accident Intermission.
Ouais.
C'est pas vraiment un documentaire, c'est un documentaire montage sur l'histoire d'un féministe. C'est tellement difficile à expliquer, mais c'est vraiment.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le film ne dit pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est un peu plein d'idées mélangées. C'est comme un scrapbook visuel, un peu.
Il n'y a pas vraiment
de ligne directrice. Ouais,
c'est pas intéressant, on va dire. J'ai aussi vu... Oui, vraiment, ils sont pas... Je ne vais pas même parler d'eux, parce qu'ils ne sont pas intéressants. Mais les surprises, je dirais, ce sera Les Garçons Sauvages, qui a gagné le prix Nouveau Alchimiste. C'est la section plutôt expérimentale du festival.
Mm-hmm.
Je dirais c'est un film qui a vraiment le... C'est comme Guy Madden, mais beaucoup plus... intense. Kenneth Anger et Guy Madden font un film ensemble. Alors, beaucoup de sexe, mais aussi ils utilisent le 8mm, 35, 16 et je crois aussi un peu de digital. Et c'est l'histoire de... Bon, et c'est... Le film commence avec un viol. Alors, ça va déjà... Il y a des personnes qui vont pas être contentes, mais c'est vraiment un film très subversif. C'est l'histoire des... garçons sauvages, mais ils sont tous joués par des filles. Et le viol, c'est vraiment absurde et non réaliste. Et le film au complet, c'est la rédemption de ces garçons avec un capitaine de mer. Mais il y a tant de queues que c'est comme ça. Cock, right? Beaucoup de pénis.
Oui.
et beaucoup de... OK. Beaucoup de sperme, beaucoup là, comme presque trop, mais ça devient drôle.
OK.
Et comme même le capitaine de mer, sur son pénis, il a un tatou, comme une carte de tous ses voyages.
Oh my God.
Et c'est juste, c'est bizarre, c'est étrange, c'est tellement drôle. Et même, comme je dis, ça commence avec un viol, ça va être... Beaucoup de personnes peut-être vont trouver un peu troublant, c'est trigger warning.
Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont sortis pendant la production ou...
Non, parce que c'est un peu légère.
Un public averti, puis des gens qui vont.
Non, il n'y avait pas d'avertissement.
Non, mais je veux dire, des gens qui vont voir du film expérimental au FNC, peut-être sont plus.
Oui, exactement ça. C'est vraiment.
C'était pas le public du Cinéplex du vendredi
non,
soir.
Non, et dans mon expérience. Malheureusement, pour la plupart des films dans la section, c'est pas comme il y a un salle plein. Là.
Non,
c'est moitié souvent. C'est des films difficiles, je comprends. Mais celui-là, je crois, c'est tellement drôle et fun. Comme c'était un de mes vrais coups de cœur et j'avais pas beaucoup du film avant de voir. Tu as le nom du réalisateur?
Oui, c'est ça. C'est Bertrand Mandicot. Et ça serait son premier long métrage, donc.
Oui, il est très connu. Moi, j'ai jamais vu ses courts métrages, mais beaucoup de personnes me disent qu'ils sont très évocatifs. Il est très connu dans le secteur des personnes qui suivent les courts métrages.
Okay.
Je lui ai rencontré brièvement aussi au festival. Il est très sympa. C'est un peu bizarre de lui parler de son film quand même parce que tu peux. Mon explication, tu sais déjà, c'est comme si bizarre et si comme c'est il y a vraiment pas de limite au terme de sexe et représentation, mais vraiment c'est aussi c'est pas awkward du tout parce que le film est si, si bizarre. C'est, mm-hmm. c'est comme un rêve, là. C'est le film que ça montre, c'est encore comme Scorpio Rising. C'est plus mm-hmm. comme ça que quelque chose de violent ou quelque chose comme abstrait. C'est juste, c'est fun. C'est ouais, good time.
Un peu comme Alain Guiraudy aussi, qui traite beaucoup de oui, sexe de manière oui, oui. Très décomplexée, très cool, en fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est une bonne comparaison actuellement. Oui, c'est vraiment c'est dans le même esprit. C'est des styles très différents, mais...
Et tu sais, c'est des Français ou...
Je crois qu'il est... C'est, il n'est pas français, italien ou quoi. Il est comme un... Okay. C'est vraiment juste, je suis pas certain.
Je vois que le film, c'est ça, le film, bon, c'est un film de la France.
Oui, donc, et c'est avec l'actrice aussi de Les Cadavres. Tu sais, le...
Elina Lowenson.
Oui, elle est une des personnages principaux.
Ok. Oui, ça, elle joue dans 3 films, je pense, cette année au festival. C'est oui, ça qu'ils elle... annonçaient. Là. Ouais.
C'est fantastique pour eux et pour elle. C'est rare qu'une actrice.
Puis en plus, c'est ça, c'est quand même pas des films anodins. Là tu parles de Les Garçons Sauvages comme d'un truc assez c'est... révélateur. Puis Laissez bronzer les cadavres aussi, c'est quand même une grosse pièce. Donc,
Oui, et vrai, moi, j'ai pas eu l'opportunité de le voir. Ça n'a pas marché pour moi, mais mm-hmm. si, leurs autres films sont expérimentales aussi. C'est,
ouais.
C'est intéressant qu'elles travaillent dans ce milieu parce que c'est qui vraiment qui travaille dans le milieu expérimental en 2017 comme une actrice, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Ça dit que il est né en Toulouse. Autrement, comme...
Est-ce qu'on a vu des films? Moi, j'ai comme vraiment pas vu beaucoup de films québécois au festival. Je sais pas pour
non,
toi.
Non, moi non plus.
Parce que souvent, en fait, je me dis, ils vont sortir de toute façon ici.
Ouais. Au moins un rendez-vous.
Ouais, c'est ça. Ou même dans les prochaines semaines, il y en a qui vont prendre l'affiche. Mais il y en a un quand même que j'ai vu dans les derniers jours, Les Affamés de Robin Aubert, qui prend l'affiche donc le 20 octobre. Et bon, Les Affamés, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu réducteur, mais c'est comme le film des zombies québécois, là, dans un sens. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on va s'en rappeler aussi pour les années à venir. Pourquoi? Parce qu'au Québec, quand même, on fait vraiment très peu de cinéma de genre, et trop souvent, en fait, le cinéma de genre est comme tenu à bout de bras par des gens qui n'ont pas de moyens ou qui ont peut-être même peu de talent, là, t'sais, pour être un peu critique. Mais donc, on a quand même dans notre cinématographie très peu d'exemples de films de genre qui sont réussis, en fait. Et juste parce que Les Affamés ont quand même un certain niveau, je trouve, de maîtrise, je pense qu'il va faire étape. Mais ensuite, un problème que j'entends souvent, en fait, puis que moi, je milite beaucoup contre l'idée que la simple existence d'un truc doit faire tout oublier. Puis tu sais, je pense que l'industrie du cinéma au Québec, on est quand même une industrie très fragile, puis on est plus complexé que, par exemple, notre industrie musicale, parce que, c'est ça, quand on voit les critiques du film, puis là, on voit « Ah, enfin un film des amis québécois » ou « Ouais, un super bon film de genre québécois, faut l'encourager, tout ça, faut absolument aller le voir si on veut qu'il y ait d'autres films de genre, mais tu sais, c'est pas nécessairement... Bon, oui, c'est bien, puis ça vient d'une bonne place, toutes ces interventions, mais faut aussi arrêter de juste aller voir des films parce qu'ils sont québécois ou parce que c'est un film québécois de genre, des trucs comme ça. J'aimerais ça, tu sais, qu'on juge ces films par rapport aux autres films de genre de l'année, tu sais. Comme Turbo Kid, il y a quelques années aussi, c'est un autre exemple comme ça. Évidemment, je suis content qu'on en fasse du cinéma ici. Puis, Les Affamés, c'est quand même dans le haut du panier de ce qu'on a fait dans le cinéma de genre. Mais est-ce que c'est tellement plus qu'une espèce d'épisode double de Walking Dead avec plus de silence, puis plus de plans fixes, puis l'accent québécois, je sais pas si ça vole beaucoup plus haut que ça, tu sais, il y a pas vraiment de faute de goût, en fait, donc juste pour ça, c'est notable, mais je trouve que ça va pas plus loin, vraiment, le zombie, c'est toujours une métaphore qu'on peut faire, là, on peut dire, dans ce film-là, on peut facilement dire, ben, c'est les francophones dans l'océan d'anglo qui existent en Amérique du Nord, on peut voir une métaphore comme ça. On peut voir d'autres métaphores, on est l'exception culturelle, on se fait bouffer par Netflix, mais nous on fait nos propres films. Je veux dire, le zombie a toujours été un espèce de vecteur de métaphores, mais suffit pas de faire un... En tout cas, moi le film m'a pas plus emballé que ça, mais évidemment j'y souhaite du succès, puis c'est bien en soi, mais de là à le mettre sur un piédestal, puis à le mettre dans les tops de fin d'année, je ne pense pas, là.
Penses-tu que si 2017 a été une année plus forte pour le cinéma québécois. Ben, est-ce que le film aura le même sorte de...
D'aura?
Oui, parce qu'il n'y a pas trop de films cette année qui ont vraiment fait une grande marque sur le public.
Ben, je pense que malheureusement, cette année, ça va peut-être encore une espèce d'année où il n'y a pas de grosses locomotives populaires.
Bon, de Père en flic 2.
Ouais, de Père en flic 2, puis Bon Cop, Bad Cop 2.
Ah oui, j'ai oublié.
Ouais. Puis, bon, il y a le Trip à 3 qui sort bientôt, que j'imagine va faire un bon succès populaire.
Ouais, probablement que oui.
Mais c'est pas, je pense pas, ben j'ai pas encore vu de Père en flic 2, fait que je vais pas me prononcer sur sa qualité. De Bon Cop, Bad Cop 2, c'était vraiment atroce, là. C'était vraiment pas très bon. Mais comme mettons par exemple au prochain prix Iris du cinéma québécois, j'ai l'impression que ça va être une année où il y aura pas des grosses cotes d'écoute, parce que les principaux films, ça va souvent être des petits films que pas grand monde ont vu. Ça veut pas dire qu'il y a des mauvais films, mais...
Il manque des films qui ont fait une marque culturelle. Comme à chaque...
Peut-être, ouais.
Bon Cop, Bad Cop 2, ça fait tant d'argent. On peut dire, oui, ça fait vraiment... Ça... Bien sûr, beaucoup de personnes l'ont vu. Mm-hmm. Alors, dans ce respect, oui. Mais pour moi, je suis dans une différente expérience. J'ai vu beaucoup moins de films en général cette année. Il n'y a pas vraiment un film que je dirais beaucoup de personnes disent « Ah, ça, c'est le film de l'année. Ça va être... C'est un préféré. » J'ai une difficulté à imaginer des critiques avoir un film québécois dans leur top 10 de l'année, mais j'ai pas vu trop cette année non plus, alors c'est juste par les conversations entre les gens.
Non, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'il manque peut-être cette espèce de cheval sur lequel on mise tous. Il y a comme pas vraiment de films qui ont fait l'unanimité, mais il y a comme eu plein de petits trucs bien, avec des qualités, mais aussi peut-être des limitations. Je pense notamment, je sais pas s'il est sorti l'année dernière, mais Maudite Poutine, ça c'était pas mal aussi.
C'était soit au début de cette année ou juste au fin de l'année.
Donc peut-être pas une grande année, mais on va quand même attendre de voir les derniers films avant de se prononcer. Alors voilà, sinon donc d'autres films qu'on a vus, qu'on a aimés peut-être. On était dans la même salle, je pense, pour Before We Vanish de Kiyoshi Kurosawa.
Oui, c'est très possible, c'était... C'est pas le soir, je suis pas allée dans le soir.
Je me rappelle plus exactement c'était
que... Parce que votre conception de temps est devenue
oui, c'est ça,
bizarre.
Train de nuit, des fois.
Non, oui, mais j'ai vu celui-là.
Ouais, mais moi, c'est drôle, je suis comme vraiment... De tous mes amis de cinéphiles qui connaissent Kurosawa, je suis peut-être lui qui l'aime le moins. J'ai quand même vu quelques-uns de ses films, notamment... Il y en avait un, je pense, l'année dernière, qui jouait au FNC, qui était...
Daguerreotype. Daguerreotype?
Non, pas celui-là.
Creepy? Celui-là?
Non plus.
Je crois qu'il y avait un troisième.
Un truc de fantôme, puis de...
Non, Daguerreotype était un fantôme avec le grand
Mais c'était plus comme un drame, genre une femme avec qui perd son mari, puis il revient.
Oh non, c'est pas ça.
C'était comme...
J'ai pas vu.
Vers le rivage. Vers le rivage, le titre français. To the Shore, je pense, ou je sais pas exactement.
Ah oui, oui, je crois. C'est pas, c'était l'année passée, c'était pas l'année précédente?
Peut-être.
On sait plus.
En tout cas, c'est un de ses films récents. C'est ça qui est quand même prolifique, Kiyoshi Kurosawa. Bon, pour ceux qui connaissent, c'était un des grands de l'époque de la G-Horror avec Pulse et ces films-là. Et il a plus récemment, en fait, versé plutôt dans le drame, en fait. Quoique, il alterne, en fait. Je pense qu'il alterne entre le drame et le film plus d'horreur, de thriller. Et il a fait, évidemment, aussi Tokyo Sonata, qui a eu un très bon succès. Before We Vanish, c'est assez particulier, en fait. Je trouve qu'il se dirige un peu plus vers l'espèce de comédie de non-sens japonais, là. Puis c'est une histoire d'invasion extraterrestre, des gens qui prennent la forme, en fait qui habitent des corps, donc pratiquement c'est comme on peut les prendre pour des humains. Et en fait ils nous observent pour pouvoir nous envahir. Puis un truc qui est le fun en fait, c'est que eux ils comprennent pas trop certains concepts humains, par exemple le mensonge, la possession, l'amour, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'un humain essaie de lui expliquer qu'est-ce que c'est, par exemple, la possession, avoir une maison, avoir des objets qui nous appartiennent, tout ça, ben là, il va dire « Ah oui, réfléchis très bien, fais-toi une image de ce que c'est la possession. » Puis là, il touche le front de la personne et acquiert, en fait, ce concept, le vol, en fait, à la personne. La personne, donc, qui s'effondre et qui a comme un concept de moins en elle. C'est assez intéressant comme idée, ça me faisait penser à... te rappelles dans l'histoire sans fin, lorsqu'elle demande de faire un vœu en échange de un souvenir, puis à la fin, la personne n'a plus de souvenir parce qu'elle a tout fait ses vœux. Il y avait un peu de ça, en fait, de ce... Imagine qu'est-ce que c'est de soudainement, t'as plus aucune conception de ce qu'est la possession, par exemple, ou de ce qu'est le travail.
Famille.
Ou la famille, ou des trucs comme ça. Je trouve ça quand même bien comme idée. C'est peut-être tout le reste du film que je trouve qu'il était pas à la hauteur. C'est un peu long pour ce que c'est, finalement. Puis, ben, c'est sympathique. Là. J'ai pas grand-chose de plus à en dire que...
Je crois que j'ai moins aimé le film que toi. Moi, j'ai aussi... je suis pas un grand fan de Kurosawa. J'ai vu peut-être 4 ou 5 de ses films. Et la plupart, je n'aime pas du tout. J'aime Creepy, mais je trouve que c'est imparfait. J'aime même pas Pulse. Ça ne dit rien. Avec ce film, Before We Vanish, j'aime beaucoup le concept. Et je dirais, les premières 45 minutes, c'est assez drôle. C'est une idée que j'ai jamais vue sur le cinéma. Il y a bien sûr plusieurs films qui sont similaires, Pontypool un peu, même Invasion of the Body Snatchers, il y a des aspects de ce film, mais vraiment, c'est très original. Et c'est bien...
Ouais, puis c'est dans le ton aussi, c'est un peu... c'est pas une invasion extraterrestre qui est effrayante ou que... Parce qu'en même temps, c'est plus c'est plus dans les discussions puis les réflexions, finalement, que le film est intéressant. J'avais quasiment des images un peu de Cocoon aussi.
Oui.
Côté drame, puis...
Mais pour moi, la deuxième partie, j'étais perdue. C'est pas perdu comme j'ai plus compris qu'est-ce qui arrivait. Non, c'est assez clair parce qu'il est,
il y a vraiment... C'est juste banal, finalement.
Oui, je dirais banal, c'est le bon mot. C'est les personnages, surtout... Il y a les deux personnages qui sont, je dirais, les personnages principaux. Le couple, pour moi, ils sont assez sympathiques. Mais les autres extraterrestres, ils sont un peu trop... c'est des cartoons, et comme c'est... Ouais. C'est des caricatures. Mm-hmm. Même le journaliste est un peu trop d'un caricature. Il prend trop sérieux et pas sérieux. Et comme tout le chasse au fin du monde, ça m'a pas... Il n'y avait pas assez de substance pour moi de me... Je pouvais pas connecter du tout à ce qui arrivait, et surtout dans les dernières 10 minutes, j'étais tellement frustrée, c'était tellement bizarre, et le point du film au sujet de le grand concept humain, ça, c'était trop évident et pas exploré assez tout au long du film.
Le film, je pense qu'on y frappe un mur puis il se renouvelle pas, en fait. C'est que c'est répétitif. Là.
Et c'est exactement ça. Alors, quand j'ai regardé, j'étais agacée. Plutôt agacée, j'étais un peu comme fâchée que j'étais là. Mais j'ai aimé. C'est un concept intéressant. Mais vraiment, ça m'a perdu totalement. C'est un des films que j'ai le moins aimé au festival.
Mais ça, c'est toujours une espèce de catch-22 dans les festivals. C'est-à-dire que tu veux avoir les films de cinéastes connus parce que tu le sais que tu vas vendre des billets, parce que tu le sais que si tu les programmes pas, les gens vont te demander « Ben là, il y avait un nouveau Kurosawa, pourquoi tu l'as pas pris, un nouveau Kiyoshi Kurosawa? » Ou je pense au Takeshi Kitano, par exemple, ou à des films comme ça. Évidemment, c'est des valeurs sûres, puis évidemment, j'ai goût de voir ces films-là parce que je connais les cinéastes, j'ai suivi leur carrière, tout ça. Mais je t'avouerais que le film de Takeshi Kitano... Outrage Coda, là, c'est dans le fond le troisième de cette trilogie. Ben, c'était vraiment pas génial, puis un peu même chose pour Kiyoshi Kurosawa. Donc, est-ce que leurs films ont été pris principalement parce que c'est eux? J'imagine que oui.
Je dirais, c'est pas
seulement... Mais c'est comme ça dans tous les festivals.
Non, c'est plus compliqué que ça, que c'est pas toujours que c'est juste des noms. C'est que si c'est un cinéaste que la plupart du temps tu veux leur film, dans les exceptions qu'ils font un film que tu n'aimes pas, il y a toujours ce moment pour un programmateur que si tu dis non, cette fois, la prochaine fois, le distributeur ou le réalisateur se dit « Ben là, tu n'as pas pris mon autre film.
»
Alors, la plupart du temps, je crois que c'est quelque chose un peu plus politique, que tu veux maintenir des relations avec les personnes que tu veux leur film la prochaine fois. Je sais que ça a été...
C'est un rapport que même Cannes n'est pas exempt de ce genre, justement.
Non, bien sûr. Les grands festivals, c'est encore plus pire parfois. Ouais, ouais. Surtout que tu dis, bon, je vais pas aller au Cannes, je vais aller au Berlin, je vais aller à TIFF. Et ouais. Pour eux, c'est un grand... C'est plus grand que le FNC qui n'a pas un premier mondial de Takashi Kitano. Mm-hmm. C'est toujours, ça va être la deuxième, troisième, quatrième, c'est déjà en salle, ouais. Tu sais.
Mais ils ont quand même, c'est ça, c'est plutôt pour les plus petits films qui vont tenir des grandes premières au FNC.
Oui. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus.
Non, c'est ça. Mais effectivement, puis même, bon, puis ensuite, c'est très possible aussi que les programmateurs ont simplement beaucoup aimé ces films-là. On veut pas non plus, c'est ça, trop faire des suppositions, mais c'est ça, souvent en fait les meilleures surprises c'est plutôt dans les premiers films ou dans les films peut-être d'inconnus, parce que si on était choisi c'est pas pour leur nom, en fait il y a peut-être une autre raison pour qu'on ait été choisi, donc oui effectivement un film assez oubliable de Kiyoshi Kurosawa,
c'était le point que ça va... pour voir un autre film de Kurosawa, parce que la plupart des derniers films qu'il a fait que j'ai haï, là,
okay.
Je vais pas le voir. Ça doit être vraiment quelqu'un que nous avons les mêmes goûts, mais dit non, celui-là, c'est bon. Parce que j'étais
déçue. C'est le point de non-retour.
Oui, parce que l'année passée, mon film que j'ai le moins aimé au festival, c'était Daguerreotype.
Daguerreotype.
Oui, quelque chose. C'était tellement plate et ridicule. Alors, c'est deux fois dans deux années qu'il est dans les trois plus pires films du festival.
Ouais.
C'est entre 20 ou 30 films. C'est pas rien. J'aime pas ces films.
Non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y avait d'autres films que tu voulais souligner?
Oui, j'aimerais beaucoup parler de Thelma, de Joachim Trier. Mm-hmm. Tu l'as vu?
Non, moi, j'avais pas vu Thelma.
Pour moi, c'est un des films comme révélateur du festival. J'ai jamais vu un de ses autres films, alors je sais qu'il est très connu, il est très aimé. Pour moi, c'est vraiment le premier film de son œuvre que j'ai vu. C'est l'histoire vraiment d'une fille d'une famille très religieuse qui part à l'université et elle commence à avoir des crises d'épilepsie. Et chaque fois qu'elle a une crise, des étranges choses arrivent. Par exemple, la première que tu vois dans le film, à l'université, des oiseaux frappent tous les fenêtres.
Okay.
Et toujours quelque chose de bizarre. Mm. Et c'est un film d'amour d'un côté. Je crois que beaucoup de personnes disent « Ah, c'est un film vraiment de grand romance. » Moi, je suis pas d'accord du tout. C'est un film vraiment de pouvoir. C'est un film de religion. C'est un film de culpabilité. C'est un film vraiment surréel. De tous les films de l'histoire qui me vient à l'esprit, c'est Louis Buñuel. C'est comme Belle de jour et aussi beaucoup de Exterminating Angel.
Okay.
C'est une histoire qui ne s'applique vraiment pas à la vraie vie. C'est absurde. Et dans cette conception, c'est tellement... Il y a tellement de pouvoir érotique et de peur aussi, mais c'est pas de peur parce que c'est pas un film d'horreur. C'est un film de... Ce que tu vois et les concepts qui sont présentés sont parfois si surprenants que je pourrais dire qu'il y a des images ou des idées que j'ai jamais rencontrées dans un film.
Okay. Ouais,
alors,
ça.
Pour moi, c'était vraiment une expérience fantastique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du film du tout. Pour moi, je dirais que c'est peut-être parce que le film, vraiment, ça pousse aux barrières. Je crois que le fait qu'il y a une moitié des personnes qui vont voir le film, qui vont l'adorer, et d'autres parties qui vont le détester, c'est vraiment, pour moi, du preuve que le film vraiment fait quelque chose de différent. Mm. Alors, pour moi, je dis tout le monde doit voir Thelma. Mais moi, je dois voir des autres films de Joachim Trier.
Je suis curieux de savoir... Moi, j'ai l'impression que le film peut-être qui est le plus divisé du festival, tu nous diras ce que tu en penses, c'est le film de Bruno Dumont.
Ah oui, Jeannette.
L'enfance de Jeannette. Je sais que Pascal Plante, lui, il a adoré.
Ouais.
Je sais que Rémi, lui, voulait en parler. Là, malheureusement, il ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, mais lui, il a vraiment détesté. Là. Pas juste être indifférent, là, il a détesté. Puis il y avait des mots vraiment pas très tendres en privé qu'il a dit à Pascal. Puis toi, ton hôpital, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu et oui. je l'ai vraiment aimé. Les premières 15 minutes à peu près, j'étais pas certain que je vais l'aimer parce que c'est bizarre et c'est un peu naïf. Primitif, c'est pas le bon mot, mais c'est... J'ai parlé comme très rapidement avec Pascal avant que je l'ai vu. Ouais. Et je crois qu'il a déjà parlé à Rémi à ce point-ci parce qu'il m'a dit « Tu dois voir ce film.
Ouais. »
Ben, c'est aussi comme un film des enfants qui font du théâtre, mais ils sont pas très bons.
Ouais.
Mais c'est parfait, tu dois le voir. Mais juste pour avertir que c'est pas pour tout le monde. C'est une bonne description du film. C'est des enfants qui sont pas vraiment des acteurs. Et ils sont aussi des adolescents plus tard dans le film. Mais il y a, c'est comme un... Le film a un air de miracle. Parce que c'est... Quand tu te laisses tomber dans le film, c'est tellement beau à regarder. Comme les enfants, ils sont très expressifs, même s'ils ne sont pas très confortables avec le dialogue, tout à fait. Parce que c'est vraiment, je crois, c'est un... basé en partie sur une pièce de théâtre qui a été écrite il y a 200 années. Alors, et vous aviez comme un enfant de 8 ans qui dit des mots qui sont... qui parle comme de la noblesse. C'est bizarre. Mais il y a quelque chose de très sympathique et très beau de voir des enfants qui sont sérieux et essaient très fort. Et sont, ils ont une spontanéité qui vient avec cette... manque de naturalisme.
Ouais, manque d'expérience.
Puis... Oui. Alors, c'est très bizarre parce que, sur une côté, c'est très artificiel, mais dans cette artificialité, ça devient tellement réel. Et la musique, c'est absurde et c'est peut-être... C'est comme death metal, un peu.
OK.
Mais il y a vraiment une sens de célébration et c'est assez drôle aussi. C'est un film que... Comme quand tu te laisses être pris par ce qui arrive, c'est juste comme la joie. C'est un film de joie. Et surtout, il y a un personnage...
Donc les optimistes vont aimer le film et les gens cyniques vont rejeter le film.
Oui. Il y a beaucoup de dabbing. Tu sais, dab?
Ah oui.
C'est absurde. C'est absurde, mais c'est peut-être une des films sur l'histoire de Jeanne d'Arc que je dirais c'est le plus convaincant. C'est bizarre, okay. Parce que tu te perds dans l'histoire et tu te perds dans la performance. Il y a deux filles qui jouent à Jeanne dans les différentes parties de sa vie, mais tu ne doutes jamais qu'elle a des contacts avec Dieu. Alors, dans ce sens, le film marche et... Tu as vraiment un sens de quelque chose de très troublant. Elle est très troublée de la responsabilité qu'elle a à la France et à Dieu.
Oui.
Et c'est vraiment affectif. Tu es vraiment touché par le dilemme qu'elle se trouve. J'ai beaucoup aimé. C'est un des films que j'ai aimé le plus du festival.
Ah, c'est bien.
Alors,
c'est drôle parce que c'est vraiment pas la première conversation que j'ai avec quelqu'un par rapport à ce film-là. Puis chacun m'en parle de façon peut-être complémentaire, mais j'arrive toujours pas à me faire un portrait de ce que c'est. Donc j'ai hâte de voir. On dirait que c'est un film qui est comme dur à décrire un peu. Mais c'est bien comme ça. Parce que justement, si on pouvait décrire tous les films, sinon on n'aurait pas besoin de cinéma.
Et c'est, même en expliquant, c'est difficile à expliquer. Même en expliquant, c'est difficile à expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, parce que c'est absurde de... Ouais. Qu'est-ce que Bruno Dumont a fait, ça n'a aucun sens. C'est Jeanne d'Arc et death metal. C'est l'histoire, là. Ouais. Mais pourquoi? On sait jamais. Je peux pas expliquer pourquoi il a fait comme ça. Et même dans le contexte du film, c'est pas très logique. Mais dans cette... quand il fait une réjection complète de comme normalité, c'est plus pur, ça fait plus, c'est le plus logique façon qu'il pourrait raconter cette histoire parce que c'est une histoire absurde. Et c'est les interactions avec Dieu, les interactions avec les anges, ça va toujours être absurde, même si tu crois.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer une conversation avec Saint-Michel. C'est pas possible parce que même si tu as la conscience, oui, ça m'est arrivé, ça peut jamais être expliqué parce que si c'est vrai, mais comme cette verre d'eau est vrai, ça devient c'est plus un miracle. C'est plus quelque chose magique, parce que les religieuses n'aiment pas quand tu sais la magie, mais c'est la magie, là. C'est qu'est-ce que c'est. Alors, death metal, dans ce sens-là, ça marche, parce que c'est la magie. Et comme headbanging, c'est comme une forme de prière, là.
OK. Ouais, c'est vraiment fascinant, c'est vraiment intéressant.
Ouais, je crois que c'est un film que si tu as l'opportunité, tu dois le voir vraiment en grand écran, parce que je crois sur...
Je sais pas s'il va sortir en salle, okay? Je pense que Malout avait eu un bon succès en salle, son dernier film.
Oui, parce que c'était un comédie. C'est vrai, c'est un peu un comédie, c'est drôle quand même. Ouais. Mais l'audience a beaucoup ri, et je pense pas qu'ils ont tort de faire, parce que c'est trop, là. Surtout son oncle, là. Son oncle, c'est comme un... small-time rapper, je crois, que Bruno Dumont... Je ne pense pas qu'il est même un bon rapper.
Okay.
C'est juste comme... Il a peut-être 18 ans et il est l'oncle de Jeanne d'Arc. Et c'est comme... Imagine Eminem, mais Eminem qui est très inconfortable avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Alors, il bouge un peu comme un robot parce qu'il essaie d'être très...
Ça s'assume pas assez.
Oui. Ah, mais c'est fabuleux, là. Et toujours, les damning, bon, il n'arrête pas. Alors,
les gens qui damnent.
Oui, non, c'est lui, surtout. C'est surtout lui. Je crois que Bruno Dumont n'a pas donné trop de direction pour lui. Juste, il danse. Parce qu'il continue. Les filles sont un peu plus classiques. Tu peux voir comme des éléments de danse contemporaine. Il y a vraiment de chorégraphie.
Ouais.
Mais pour lui, beaucoup moins. Mais dans ce sens, ça marche. C'est drôle.
Donc c'est comme si dans tout le projet, il y a instauré un certain chaos, puis un certain truc qui explique pas trop, mais que...
Si tu essaies d'expliquer, ce sera... Tu pourrais jamais. Ce serait... Ça aurait détruit tout le...
C'est comme de l'alchimie, il a réussi à agencer des trucs qui vont pas ensemble, puis à faire une bonne recette.
C'est un remix.
Cool, ben ça a l'air fascinant. Moi, le dernier film que je voulais aborder, en fait, c'était également le dernier film que j'ai vu au festival. Et ça, je sais que c'est absolument superficiel comme pensée, là, mais j'aime ça à chaque festival, avoir... Tu sais, écouter un film qui est long. Tu sais, avoir un gros film de festival. Un truc qui dure 3 heures minimum. Là, donc, cette année, mon gros film, en termes de durée, c'était Bangkok Nights, du japonais Katsuya Tomita, qui tient également le rôle principal. Ben, c'est une grosse pièce, c'est ça, forcément. C'est la sous-culture de la prostitution qui est tenue par les Japonais, en fait, pour les touristes japonais. Parce que le dollar du Japon est beaucoup plus fort que celui de la Thaïlande. Et aussi, les règles sont peut-être plus permissives, tout ça. Donc, les touristes japonais qui s'en vont à Bangkok pour fêter, pour célébrer, pour avoir des aventures avec de jeunes prostituées, tout ça. Donc, c'est un film de ça, un film de 3 heures, ça, c'est une épopée. Et le film se renouvelle beaucoup. C'est vraiment... C'est dur à expliquer comme style, en fait. Ça m'a rappelé par moments un peu le cinéma de Jasenki. Il y avait quand même des fois des longueurs, des trucs comme ça. Il y a une belle énergie aussi. On est pas mal plus souvent du côté de la troupe de prostituées. Et en particulier, le rôle principal, c'est le personnage qui s'appelle Locke, donc Chance. Et qui donc, c'est ça, c'est une jeune prostituée. Puis c'est la même histoire pour à peu près toutes les filles qui sont là, en fait. C'est qu'elle, c'est une façon pour elle d'aider leur famille, puis de soutenir leur famille. Parce que souvent, c'est des gens qui viennent de petits villages, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'opportunités, qui voulaient absolument, pour plusieurs raisons, qui voulaient quitter le village. Et puis, quel est le truc le plus accessible et le plus facile lorsque tu es une jeune dame, une jeune fille? Parce qu'il y en a qui commencent à 15 ans hein, à faire ça. Ben, c'est d'aller dans la grande ville puis de vendre son corps. Et donc, c'est ça, le cinéaste Katsuya Tomita est un peu dans la lignée, l'héritier peut-être moderne d'un Kenji Mizoguchi qui fait des portraits de femmes complexes, des portraits de prostituées qui sont... C'est vraiment un regard qui essaie de les comprendre, en fait, puis essaie d'en faire des vrais personnages plutôt que de juger leur situation. Et dans la camaraderie entre les filles, dans leurs échanges, ça, il y a vraiment comme... On sent invité, en fait, dans cette communauté-là. Qui est fascinante, hein, tu sais, je veux dire, peu importe notre opinion sur la prostitution, sur est-ce que ça devrait être légal ou pas, est-ce que les gens en abusent, elles, ce sont des personnes, puis bon, la plupart, il y en a qui n'ont pas en contrôle nécessairement de ce qu'ils font, mais il y en a qui font ça aussi par choix, puis, puis ça reste des personnages très intéressants, tu sais, peu importe leur milieu, puis les raisons pour lesquelles elles font ça. Et après environ une heure de film, t'as une espèce de longue balade, une longue parenthèse où Locke retourne dans sa ville d'enfance pour prendre des vacances un peu avec un petit client qui est comme peut-être plus qu'un client pour elle, mais c'est pas trop sûr, c'est comme un de ses amis proches. Et donc, ils vont dans leur village natal pendant une bonne heure de film. T'sais, c'est une espèce de méga flashback qui m'a un peu fait penser au... pas un flashback, en fait, une parenthèse, qui m'a un peu rappelé le flashback donc dans... Tigre et Dragon, où pendant comme 45 minutes seulement, on raconte l'histoire d'amour du personnage de Zhang Ziyi. Donc là, ça, on est vraiment comme... Le rythme est complètement cassé entre la folie et les paillettes de la prostitution et des néons, et tout est très agressif dans la ville. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passants, et puis aussi tous les employés, en fait, qui accostent les potentiels clients dans la rue, puis sont comme « Ah, venez voir, on a 30 films, venez, elle parle japonais, elle va vous faire tout ce que vous voulez, tout ça. » Et là, soudainement, on passe vraiment au calme de la petite ville, puis de la famille qui sont comme 10 à vivre sous le même toit, puis qui sont tous un peu en admiration envers Locke, même si sa mère approuve pas nécessairement son choix. Évidemment, elle est très contente d'accepter l'argent qu'elle lui rapporte. Donc, c'est quand même des relations complexes. Il y a aussi un moment où donc son ami, avec qui elle était partie, lui décide d'aller ailleurs, puis il décide de vagabonder un peu, puis de réfléchir, est-ce qu'il veut toujours être dans ce milieu-là, parce que, bon, lui, il est client, mais également, à un certain point du film, il devient un peu un des pimps, puis un de ceux qui ramène des clients. Puis à un moment donné, c'est ça, il finit par se balader, puis tombe sur une troupe de... On sait pas trop c'est quoi, c'est genre une espèce de clique de rappeurs... Qui sont très écolos, en fait, puis très anarchistes, puis qui font comme donc du rap conscient socialement, là, social conscious. Là. Puis eux aussi, ils vont se balader dans des espèces de... Puis il y a vraiment des plans de caméra assez fabuleux, là, des espèces de paysages où on voit les anciens bombardements de la guerre, tout ça... Donc non, c'est assez fascinant comme film. Et ensuite, il y a tout un troisième acte aussi, mais c'est vraiment un film où, comme je l'ai vu avec ma copine, puis on se disait, est-ce qu'il aurait pu couper facilement une heure de film? Dans un sens, oui, mais dans un sens, c'est un film où, un peu aussi comme le film Eureka, où c'est vraiment dans la durée, il y a quelque chose qui se crée, puis tu finis vraiment par t'attacher au personnage, puis à développer quelque chose avec eux, puis... Puis tu sais, il y a ce côté-là aussi où ça n'a pas l'air planifié dans le film. T'sais. Parce que souvent, des scénarios, faut que tu vas du point A au point B, puis tout est justifié, puis il y a toujours une espèce de démarche, puis où il y a différents mégaphones, où tu sais, on doit avancer le récit. Mais là-dedans, il y a vraiment des moments où les personnages se disent juste « Ah, j'ai goût de prendre une pause. Puis j'ai goût de faire autre chose. » Puis tu sais, dans la vie aussi, des fois, c'est ça. C'est, on n'a pas tous le chemin tracé d'avance, puis des fois, on prend des détours, puis des fois, on revient en arrière, ou des trucs comme ça. Donc ça, je crois qu'il faisait très bien dans ce film-là. Aussi un film de voyage où tu sens le voyage, tu sens aussi toute la longueur du voyage, parce que, tu sais, les films de voyage ou des trucs, là, tu sais, comme mettons Wild de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon, où elle fait le chemin, là, la trail à pied, puis que dans le fond, elle réfléchit à sa vie, tout ça, ben c'est bien, mais tu sais, c'est très formaté comme film, ça dure, tu sais, 1h40, tout ça, on sait à peu près ça avec quoi, elle va avoir des épreuves, elle va arriver, elle va avoir des révélations, tout ça, mais t'es pas rendu surprise. Tandis qu'un film comme ça, t'as vraiment ce côté, c'est ça, vagabondage, ce côté où tu sais pas trop où on s'en va, puis c'est correct.
Je voulais dire que j'ai beaucoup. J'ai voulu voir Bangkok Nights, mais à la
Ouais.
dernière minute, j'ai décidé, bon, au lieu de le voir, je vais voir trois autres films.
C'est ça les avantages d'un très grand film, en fait, là, c'est qu'il faut que tu réserves une partie de ta journée.
Mais je crois que c'est une bonne connexion. Au lieu de voir celui-là, j'ai vu un de mes autres films préférés du festival, c'est Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos.
Oui, qui nous a donné de Lobster il y a 2 ans, je
Oui,
pense.
et j'ai beaucoup aimé. Non, je crois que c'était l'année passée.
Ah oui,
Oh non, peut-être tu as raison. Bon, ça
il y a
fait.
pas longtemps, là,
C'est pas longtemps
récemment.
avec
Ouais.
Ron Farrell aussi.
Ouais.
Et c'était aussi mon dernier film du festival et c'est peut-être mon préféré. J'aime
Ah
beaucoup
oui, ok.
Thelma, bien sûr. J'ai donné beaucoup d'acclamations, mais Killing of a Sacred Deer, pour moi, c'est encore un film très absurde, très surréel, qui est très drôle et très perturbante. C'est l'histoire d'une docteure qui a une relation un peu bizarre avec un jeune garçon. Et tu ne comprends pas vraiment est-ce qu'il est son père, est-ce qu'ils sont un couple, est-ce que c'est quelque chose d'autre, parce qu'à la fin de la journée, le docteur retournait à sa famille avec son mari, Nicole Kidman, et ses deux enfants. Et avec la progression du film, tu réalises qu'il n'est pas le père, il n'a pas un couple, c'est une relation très artificielle qui est vraiment lignée à la culpabilité parce que peut-être ou pas il est responsable pour la mort du père de ce garçon. Alors dans une comme grande drame de la Grèce comme on pourrait dire comme Oedipus Rex ou whatever, quand le film vient à
Mais
le
c'est
moment
quasiment l'inverse, finalement, ce serait le
Oui,
père qui
non,
aurait
c'est
tué le
exactement
gamin.
ça, mais l'élément déclencheur, c'est que cet garçon a un pouvoir magique et il donne le choix au docteur. Si tu ne tues pas un de votre membre de famille pour qu'il y ait du justice, ils vont tous mourir de quelque chose mystérieux. Et ça c'est vraiment l'élément déclencheur du film. Et le docteur, bon, il est un docteur, il dit non, c'est absurde, bla bla bla. Mais des choses très bizarres commencent à arriver et c'est très clinique. Et si tu as vu The Lobster et même ses autres films, c'est lui qui a fait Dogtooth aussi, c'est un style de performance et d'esthétique qui c'est très mécanique.
Ouais.
Mais dans cet élément mécanique, il y a vraiment beaucoup de réalité parce que la société que nous vivons, c'est artificiel, beaucoup. Nos interactions, même avec les membres de famille, même avec les personnes que notre mari, notre meilleur ami, si tu prends juste les mots, la plupart c'est rien, on dit rien tout le temps, c'est comment ça va? Ça va bien. Alors quand tu enlèves toute l'émotion et tu viens juste aux mots, c'est bizarre et c'est étrange et nos interactions humaines sont bizarres et c'est pas connecté vraiment à l'amour, c'est pas connecté à rien. Je trouve Dogtooth, c'est peut-être le meilleur exemple parce que c'est vraiment un film sur les mots, sur le pouvoir de comprendre les concepts. Revenir à Before I Vanish. Mais The Killing of a Sacred Deer, pour moi, ça vraiment, c'était quelque chose de très étrange. Et surprenant, et je dis surprenant parce qu'il y a des moments dans le film sur quand c'était à l'Impérial que c'était la projection, que ce qui arrive à l'écran, les personnes qui regardent le film étaient tellement choquées qu'il y avait comme des psy cris et tout ça. Et c'est une des. Ça arrive très rarement, même à quelque chose comme Fantasia, c'est très rare qu'il y ait cette réaction si immédiate que les personnes juste réagissent et
Okay.
réagissent vocalement et aussi comme des personnes qui couvrent leurs yeux et qui sont comme c'était comme un vague
Okay.
sur toutes les personnes qui
Il y
regardaient
avait
le film.
vraiment de l'énergie dans la salle.
Oui, et vraiment c'était j'ai la première fois j'ai voulu premièrement voir Bangkok Nights parce que ça va sortir en salle, c'est la même chose j'ai vu Call Me by Your Name, ça va sortir en salle, mais j'ai 3 heures là, 3 heures et 10 minutes. C'était trop. C'était trop pour le dernier film du festival. Mais je suis contente
Mais t'es
de.
bien tombé, donc.
Oui. Non, ça a bien marché pour moi. Mais j'aimerais bien revisiter Bangkok Nights. Et je crois Ariel, Il a beaucoup aimé, il m'a dit que c'est un des meilleurs films qu'il a vu dans les dernières années aussi. Alors, j'ai vraiment hâte à le découvrir pour moi-même.
Ouais, je sais pas si on va prendre l'affiche ici, ça me surprendrait.
Non, je crois pas.
Je sais qu'en France, il sort dans comme deux semaines. Ouais, il y a une promotion avec les cahiers du cinéma, notamment, qui sort le film. Ils viennent de sortir genre l'affiche française là, sur Internet, j'ai vu ça. On peut peut-être espérer éventuellement l'attraper sur iTunes, en Blu-ray ou peu importe. Alors, ben voilà, c'était notre bilan du FNC. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été des nôtres. On continue à te suivre sur Twitter, notamment. Et nous, pour notre part, on va aller écouter la bande-annonce du film « Pieds nus dans l'aube » de Francis Leclerc. Est-ce qu'il pourra donc relever un peu le niveau de l'année du cinéma québécois? Réponse dans quelques semaines. Et aussi, je voudrais souhaiter joyeux Halloween à tous nos auditeurs, parce que notre prochain podcast sera pas avant la fin octobre, c'est-à-dire que début novembre qu'on va enregistrer le prochain podcast. Est-ce que tu as des plans pour l'Halloween? Est-ce que t'as des
trucs? Non, à chaque année, c'est vraiment dernière minute. L'année passée, ça va être difficile à être mieux parce qu'on a fait un ghost hunt dans mon appartement. On a fait déjà deux et malheureusement, il n'y a pas de fantômes. Où j'habite. Mais peut-être on va trouver...
Peut-être qu'il était resté caché aussi.
Ouais. Ah, mais nous avons fait un chasse fantôme dans la maison de mes parents. Il y avait des choses qui sont très, très bizarres. Là. Parce que mes amis, ils ont voulu faire comme un programme. Alors, ils ont tout l'équipement. Comme les sons, les vidéos et tout. Peut-être on va faire quelque chose.
Cool. Oui, puis pour ma part, on va se réunir entre amis, on va écouter des films d'horreur. Ça va être très plaisant tout ça. Donc voilà, alors c'était notre point de vue. J'étais avec Justine Smith, mon nom est Paul Langlieu.
Yes, gentlemen, can I help you? Ah. And your name is?
Félix, madame. Félix Leclerc.
Allô, allô, les gens de la TUC, m'entendez-vous? Cette carte est remplie de découvertes.
Québec, c'est où, maman?
Tout ce qui est à droite, c'est la province de Québec. Puis, c'est quoi les bords rouges?
Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas encore.
Est-ce qu'on va pouvoir y aller pour vrai?
Quand le chemin est beau, allez loin.
J'ai de penser que quelqu'un puisse partir pour un endroit qui n'existe pas.
Tu penses qu'il y a tout ce qu'il faut?
Non, pas inquiet pour lui. Il sait lire dans nos gestes, sa tête travaille sur tout ce qu'il veut.
Tu n'es pas à l'école?
Je vais pas lancer avec les pipettes de vernis, moi.
C'est parce qu'ils ont pas assez d'argent pour vivre, c'est ça?
C'est pas juste dans le ventre que ça gruge la pauvreté.
C'est dans le regard des gens aussi.
Les hommes que nous sommes ont trouvé à tracer des passages entre les mondes.
Si tu m'avais attrapé dans un piège, on serait jamais devenu amis.
Félix, j'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain.
Une belle chance que tu as d'aller là-bas. Ça t'amènera à plein de nouveaux possibles.
Tu serais attiré par une fille? C'est un jeune garçon. Pourquoi vous dites ça? Ben!
Pas envie de ça, les voyages?
Ben non, c'est pas les voyages, le problème. On est tout seul, sans vous.
Toi, t'as un don. Le français, l'art... musique, je sais pas vers quoi tu marches, mais t'avances.